On commence l'émission avec Yuna Kiff, qui est la réalisatrice du film Les Invisibles. Bonjour, Madame Kiff.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Ça va, merci. Donc, parlez-nous de votre film, Les Invisibles.
Oui, Invisible. Donc, Invisible, ça parle de travail du sexe et de personnes en situation de handicap. Donc, ça, de manière sex-positive et non victimisante. On suit le parcours de Elisabeth, qui est une travailleuse du sexe, qui décide de quitter le travail du sexe, mais juste avant de quitter, elle décide de voir un dernier client, et ce client, il est en situation de handicap. Et après l'avoir vu, elle réalise qu'il y a des aspects de son travail qu'elle n'a pas encore exploré. Donc, elle se replonge là-dedans et on la suit dans son parcours.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de ça, d'explorer ce sujet-là qui est quand même peu exploré dans le milieu du film?
Oui, tout à fait. Bien, c'est ça, ces sujets-là sont souvent marginalisés, ces deux communautés qui sont marginalisées, et souvent on les montre pas de cette manière-là dans la société. Souvent les travailleuses du sexe, on va montrer vraiment tous les côtés négatifs, on va parler de l'exploitation, et on va pas parler du travail, des personnes qui choisissent de faire ce travail-là. Même chose pour les personnes en situation de handicap, souvent on les montre de manière très unilatérale, des personnes qui ont besoin d'aide, des personnes vulnérables, puis souvent des personnes qui sont... qui ont des bonnes valeurs, etc. Donc, moi, j'essaie un petit peu, entre guillemets, de normaliser tant le travail du sexe que les personnes en situation de handicap qui sont comme n'importe qui d'autre, qui sont des humains à part entière. Donc, c'est vraiment cet aspect-là que j'essaie de montrer dans le film.
Et d'où vous est venue cette idée-là? Est-ce que vous avez eu des contacts avec des gens qui étaient en situation de handicap ou des gens qui étaient dans le travail du sexe qui vous ont inspiré ce travail-là?
Non, en fait, il y a 10 ans environ, j'allaitais mon premier enfant et je suis tombée sur un article qui racontait comment une travailleuse du sexe a commencé à avoir une clientèle de personnes en situation de handicap et que finalement, elle est tombée en amour avec un client, ils se sont mariés, etc. Mais c'est vraiment, c'est pas l'histoire d'amour qui m'a intéressée parce que je trouvais ça peut-être un peu cliché, mais c'est le fait qu'on n'entend pas raconter des travailleuses du sexe qui rencontrent des clients en situation de handicap et aussi simplement à la sexualité des personnes en situation de handicap, on s'en intéresse pas du tout. Alors, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Je me suis formée comme assistante sexuelle pour personnes en situation de handicap en France. Puis par la suite, j'ai commencé à faire vraiment beaucoup d'entrevues et c'est vraiment en rencontrant des femmes fortes, des femmes qui ont décidé de faire ce job-là et des personnes en situation de handicap qui sont vraiment comme n'importe qui d'autre que ça m'a donné vraiment envie de parler de ces deux communautés-là de ce point de vue-là.
Ça fait combien d'années que vous êtes sur ce travail-là, le travail du film qui vient de sortir?
Oui, ça fait vraiment, de manière intensive, je vous dirais un 7 ans, peut-être même un petit peu
quand
plus. Ben, 5 ans, ça a juste été la recherche avant de commencer à écrire le scénario. Donc ensuite, la production et tout ça. Ouais.
C'est quand même exhaustif, là. C'est quand même beaucoup plus que ce qui a été fait dans la plupart des projets, là.
Ben, sûrement, j'avais une approche très documentaire pour ce film-là. Je voulais vraiment pas remontrer des clichés, remontrer des stéréotypes, et je voulais vraiment déstigmatiser certaines notions que même moi, j'avais appris ma barre, parce que je connaissais pas ça.
Mais vous dites que j'avais une approche documentaire, et pourtant, justement, le film n'a rien de documentaire dans l'optique où c'est vraiment un film en bonne et due forme, loin du documentaire, malgré le fait que vous dites que vous avez fait attention aux stéréotypes là, pour pas tomber dans le stéréotype, mais quand même, le film en tant que tel est loin des documentaires. On voit souvent, on a vu quelques fois des documentaires sur la question, mais votre film est nouveau dans ce qu'il propose.
Oui, ben c'est vraiment une fiction. C'est vraiment à 100% une fiction. Tout a été vraiment créé, planifié. Par contre, j'ai quand même donné un look, une approche assez documentaire dans le sens qu'on a l'impression de suivre les personnages de très proche. On a l'impression vraiment d'y être. Tu sais, c'est pas hyper stylisé et léché comme image. Je voulais vraiment qu'on se sente vraiment parmi l'histoire, parmi les actions. Mais vous avez raison, c'est tout à fait une approche complètement de fiction.
Et ça a été quand même réfléchi, on sent la réflexion par rapport à ça. Et d'ailleurs, vous faites affaire dans le film avec des acteurs qui sont en situation de handicap. J'imagine que
Absolument.
C'était aussi une préoccupation pour vous.
Ben oui, absolument, parce que souvent, quand on parle des personnes concernées, finalement, on les inclut pas,
oui,
les personnes
fait,
concernées. Donc, pour moi, ça a été la première chose, même avant même la sortie du film, que si on parle de personnes en situation de handicap, ben, ce soit des personnes en situation de handicap qui jouent dans le film. Donc, à part un comédien, les 30 autres personnes qu'on voit dans les premiers rôles, second et figuration, c'est tout joué par des vraies personnes en situation de handicap. Donc, on s'est vraiment adapté à leur handicap parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de scènes de sexualité, de nudité, oui, de tout ça. Donc ça, c'était important de le montrer de manière crédible, mais donc de le montrer et de s'adapter autour de vrais handicaps de ces personnes-là.
Donc j'imagine qu'il y a eu quand même un travail avec des professionnels pour aider la mise en place de tout ça. Donc, au niveau du plateau, là, j'imagine que ça a été quand même un travail ardu, un long travail pour être sûr que tout le monde soit à l'aise puis que le plateau soit adapté aux différents handicaps et j'en parle aussi.
Exactement. Mais non seulement le plateau devait être adapté aux personnes en situation de handicap, on était nous-mêmes confrontés à tous les jours de voir vivre une réalité que les personnes vivent. Parce que s'il y a des escaliers, ben on peut pas filmer là. S'il y a un endroit qui est pas accessible, on peut pas aller filmer là. Donc c'est sûr que notre tournage était à 100% adapté à la réalité des personnes en situation de handicap qui participaient dans le film. Fait que ça, c'était vraiment la base. Mais ensuite, pour les scènes de par exemple, par rapport à la sexualité, les scènes d'intimité, ben c'est sûr qu'on était accompagnés. En fait, on a eu un coordonnateur d'intimité, on a eu une conseillère à l'intimité, puis on a aussi eu une travailleuse du sexe qui a approuvé certaines actions qui regardaient la crédibilité des choses, même si c'est pas, tu sais, invisible, c'est pas l'histoire de toutes les travailleuses du sexe.
Non, bien sûr.
Travailleuse du sexe, mais quand même, on a été accompagné pour les scènes d'intimité par une travailleuse du sexe. Et en fait, tout le film là, a été révisé par 3 travailleuses du sexe de très, très, très près, justement pour la crédibilité, pour la bonne représentation, etc.
C'est quand même un travail que vous n'étiez pas obligé de faire, mais que je sens qu'il a été important pour vous. Est-ce que vraiment c'était quelque chose qui vous tenait à cœur de ne pas retomber dans des stéréotypes ou dans des préjugés?
Ben moi, c'était primordial parce que je veux dire, tomber dans des préjugés, j'ai l'impression qu'on y est souvent.
Oui.
Les médias montrent les mêmes choses. Les médias, je sais pas pourquoi, là, mais on dirait qu'ils veulent pas s'intéresser aux personnes. C'est comme on dit, parler de quelqu'un, mais sans l'inclure, ben, ça fait pas de sens. C'est sûr qu'on va pas dire les bonnes choses, tu sais. Donc, pour moi, c'était important d'avoir tout ce travail de recherche, mais aussi d'intégrer ces communautés-là directement en pré-production, en écriture de scénario et en plein tournage aussi. Là, c'était, je veux dire, ça aurait pas pu fonctionner différemment, le film Invisible, si c'était pas de ça.
Mais vous le dites vous-même, c'est quelque chose d'intéressant. T'sais, j'avais moi-même des préjugés. J'avais moi-même des idées préconçues et ça montre à quel point même les meilleures personnes, des personnes super bien intentionnées ont des préjugés, ont des idées préconçues. Donc, ces idées-là, ben, elles sont normales, mais qu'il faut y travailler puis il faut s'y intéressé pour essayer de déconstruire.
Tout à fait. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est des mauvaises personnes, c'est qu'en fait, on manque d'informations.
Oui.
Et des fois, on sait pas où aller chercher l'information. Donc, moi, en fait, les premières scènes que j'écrivais il y a 7 ans ou les premières idées que j'avais ne sont pas du tout dans le film aujourd'hui parce que j'ai réalisé plein de choses et j'ai compris plein de choses puis on m'a fait réaliser plein de choses, les personnes de ces communautés-là. Donc, tu sais, j'avais une vision un petit peu plus naïve de ce que j'ai aujourd'hui. Puis je pense que ça a pris ce temps-là, que ça a pris justement pour arriver au film qu'on a aujourd'hui.
Mais cette conversation-là est quand même importante de l'avoir, puis de l'avoir ouvertement. Est-ce que vous sentez qu'il y a encore un tabou d'avoir une conversation franche sur les préjugés, puis sur les idées préconçues, puis sur la sexualité des personnes en situation de handicap?
Ah ben oui, en fait, c'est aussi une des raisons pourquoi je voulais en parler de cette manière-là, parce que c'est tellement tabou. Déjà, parler de sexualité, c'est pas évident et facile pour tout le monde dans la société.
Oui.
Mais en plus, à ce qui a trait aux personnes en situation de handicap, c'est ridicule. Des fois, on les prend pour des personnes asexuées. On les prend pour des personnes... Tu sais, c'est comme s'il y a toujours un problème autour de la sexualité, tandis que la sexualité, ça fait partie de notre vie, peu importe notre corps ou notre cerveau. Oui. Ça fait partie de ça. Donc, le fait d'en parler, déjà, ça déstigmatise un peu la question. Mais ensuite, pas juste en parler, mais y aller à fond. fond, y aller vraiment avec tendresse, comme avec de manière très crue et frontale. C'est un peu la position que j'ai pris aussi avec le film, d'y aller de manière crue et frontale. Ça permet d'enlever ces tabous-là. Parce que quand les gens ils regardent le film, il y en a qui vont se sentir mal à l'aise, oui. Je le sais. Mais c'est justement quand on se sent mal à l'aise que peut-être après ça, on se sent plus mal à l'aise parce qu'on l'a vu, on l'a expérimenté. Donc, voilà.
On repousse des limites, en fait.
Oui, exactement.
Et là, j'ai envie de vous parler, et j'imagine que je suis pas la première, mais j'ai envie de vous parler du documentaire Touché, hein, qui est sorti oui. Il y a quelques semaines. J'imagine que c'était pas prévu, étant donné que votre travail est de longue haleine, mais quand même, là, oui. On a eu un début de conversation avec ce documentaire-là. Mais moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est vraiment les commentaires, entre autres, dans les journaux, où on pariait qu'on faisait, en fait, on positivait un système d'exploitation, finalement, puis qu'on banalisait un système d'exploitation, à la fois d'exploitation des femmes qui sont travailleuses du cycle, mais également d'exploitation des personnes en situation de handicap, que finalement, on banalisait quelque chose qu'on ne devait pas banaliser, puis que c'était... c'était une mauvaise façon d'aborder les besoins des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que vous répondez à ces médias-là qui pensent vraiment qu'on...
Ça banalise. Écoutez, ces médias-là qui vont, par exemple, dire qu'on banalise le travail du sexe parce que c'est de l'exploitation, etc., c'est que ces personnes-là qui parlent d'exploitation ne parlent pas du travail du sexe. On est d'accord qu'une personne qui a choisi de faire ce travail-là par elle-même, qu'elle n'a pas un proxénète qui l'oblige à le faire, puis elle ne doit pas remettre son argent à quelqu'un d'autre parce qu'elle a des comptes à rendre, ben, il n'y a aucun problème à faire le travail du sexe. C'est un travail. Ensuite, si la personne est obligée, si elle est forcée, si elle ne veut pas le pratiquer puis qu'elle le pratique, là, on ne parle pas de travail du sexe.
Je comprends.
Là, on parle de l'exploitation. Et souvent, malheureusement encore à notre époque, les gens mélangent le travail du sexe et
l'exploitation sexuelle.
Ce n'est pas le travail du sexe, c'est de l'exploitation. Oui. Donc non, je ne suis pas d'accord de mélanger ces deux choses-là. Avoir le travail du sexe avec les personnes en situation de handicap ou le travail du sexe avec les personnes non en situation de handicap, ça revient à être du travail du sexe.
Oui, je comprends.
Donc, il n'y a rien qui est banalisé là-dedans. En fait, c'est plutôt ces personnes-là qui essaient de mêler ces deux choses-là, créer encore une fois des stigmates, puis créer encore une fois des clichés qui sont faussement répercutés. C'est souvent des personnes qui ne sont pas en lien avec de vraies travailleuses du sexe qui vont vraiment répondre que, j'imagine ce que je dis un peu, est-ce qu'on peut laisser tranquille ces personnes-là puis qui décident pour elles-mêmes qu'est-ce qu'elles veulent faire puis comment le faire?
Et est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui font affaire avec ces personnes-là, donc qui demandent des services sexuels, sont, elles, des victimes du système?
Vous voulez dire des victimes du système du travail du sexe ou des victimes de quel système?
Des victimes, oui, du système de travail du sexe, des victimes de la société. En fait, ce qu'on disait, c'était que ces gens-là, c'était pas vraiment du sexe dont ils avaient besoin, mais qu'ils avaient besoin de plus de services, qu'ils avaient besoin de plus d'attention. Donc, qu'ils étaient des victimes d'un Québec qui ne leur donnait pas assez de services.
Ouais. Ouais, je trouve que c'est un petit peu difficile de dire que les personnes en situation de handicap devraient avoir plus nécessairement d'aide du gouvernement par rapport à la sexualité, parce que ça veut dire qu'on les met encore une fois dans une case à part de tout le monde.
Oui.
En disant que les personnes en situation de handicap ont besoin de ces services-là et que d'autres personnes n'auront pas besoin, ça vient encore une fois diviser et de créer une hiérarchisation chez les travailleuses du sexe. Et on dirait, OK, donc ce travail du sexe avec une personne en situation de handicap, c'est correct, mais avec cette autre personne qui n'est peut-être pas assez handicapée, selon le gouvernement, là, ce ne serait pas correct. Fait que là, on créerait en plus des contraintes encore plus compliquées. C'est qui est considéré qui a un handicap ou pas? Pour moi, je pense que c'est faux de dire que c'est des victimes. En fait, qu'on victimise ces personnes-là. Parce qu'en fait, n'importe qui pourrait avoir le droit d'avoir une relation avec une travailleuse du sexe qui a fait ce travail par choix, par décision. Donc, tant une personne en situation de handicap que pas. si on commence à faire une différence, bien, on met encore une fois les personnes en situation de handicap dans une catégorie différente à part du reste de la société. Donc, pour moi, je préconise comme la majorité des travailleuses du sexe, je parle bien de travailleuses du sexe, pas d'exploitation, la décriminalisation totale du travail du sexe et de permettre à ces femmes-là, majoritairement des femmes, mais il y a de, tu sais, de faire leurs propres règles, de travailler de manière ouvertement et d'avoir de la sécurité dans leur travail. Et même chose, le client ne serait donc pas criminalisé parce qu'en ce moment, que quelqu'un ait un handicap ou pas, il est criminalisé s'il prend des services de travailleuses du sexe.
Et en terminant, est-ce que vous pensez que les personnes en situation de handicap doivent nécessairement faire appel à ce type de service-là? Est-ce que c'est pas également de les victimiser que de montrer ça comme étant leur seule option, finalement?
Mais non, pas du tout. Puis comme vous l'avez vu dans le film, on rencontre très bien une personne en situation de handicap qui a une famille, qui a une relation. Ça fait... En fait, dire que c'est la seule manière d'avoir des relations avec une personne de manière intime, c'est complètement faux.
Oui.
C'est juste que c'est une option. Ça ne veut pas dire que c'est la seule manière. Mais non, les personnes en situation de handicap, de celles que j'ai rencontrées, en tout cas, il y en a qui vivent en famille, il y en a qui ont tout type de relations, comme l'est notre société.
Oui.
Et comme, donc, pas du tout. Oui, c'est pas du tout une nécessité de faire appel à ces personnes-là. C'est juste un choix que ces personnes-là peuvent prendre. Mais c'est juste dommage que quand elles prennent ce choix-là, ben, elles sont considérées comme des criminels.
Oui, puis on y stigmatise par rapport à ça.
Exactement. Puis qu'on dise ben c'est la seule manière aussi d'avoir une sexualité, c'est faux. Et ces personnes-là le vivent de manière différente, puis elles ont tout le droit de le vivre de manière comme elles le veulent.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis on invite les gens à voir votre film qui, quand même, défait des tabous et défait des idées préconçues là, sur le handicap et le travail du sexe.
Merci beaucoup. Merci.
Merci. Bonne journée.
Bonne journée.